Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi, nous sommes le 14 février. Réunion déterminante hier entre l'intersyndicale des pompiers, les financeurs et la direction du SDMIS. Après plus de 4 mois de grève, une sortie de crise se dessine. Les enseignants de l'école Angelina Courcelle à Vaux-en-Velin étaient en grève hier, nous verrons pourquoi dans cette édition. Après 5 mois de travaux collectifs, la Convention métropolitaine pour le climat a émis son avis citoyen pour adapter la métropole de Lyon face au changement climatique. Dans cette édition, nous entendrons Bernard et Maxime, deux porte-parole de la Convention métropolitaine pour le climat, et également la vice-présidente Laurence Beaufet, vice-présidente de la métropole, chargée de la politique de concertation et à la participation citoyenne. Et puis en Ligue 1, le match Montpellier-OL avec le déplacement de 600 supporters lyonnais bien encadrés.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une réunion déterminante s'est donc tenue hier entre l'intersyndicale, les financeurs, métropole et département, et la direction du SDMIS, le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours. Après plus de 4 mois de grève, une sortie de crise se dessine chez les pompiers de la métropole et du Rhône. Un vote doit se tenir jusqu'à mardi midi par mail pour décider d'approuver ou non l'accord. Les pompiers professionnels en grève réclament plus de pouvoir d'achat et des embauches. Le recrutement avant la fin de l'année de 16 pompiers professionnels a notamment été proposé à l'intersyndicale, le versement de l'indemnité compensatoire de logement, que la Chambre régionale des comptes juge irrégulière, serait maintenu dans l'attente que la CRC ait statué sur le fond. Une prime d'intéressement a aussi été mise sur la table. L'ensemble des propositions pèserait plus de 2,6 millions d'euros au lieu des 1,5 millions initialement prévus, avec une clause de revoyure en octobre. Les enseignants de l'école Angelina Courcelle à Vaux-en-Velin étaient en grève hier. Les classes de l'école élémentaire sont restées vides, à l'exception d'un service minimum d'accueil assuré par la municipalité. Les enseignants protestent contre les conditions de travail qui ne leur permettent plus d'accueillir convenablement les écoliers en situation de handicap. Sur les 247 élèves scolarisés, 8 sont concernés. 6 d'entre eux, parfois lourdement handicapés, devraient bénéficier d'un placement dans un institut médico-éducatif. Par manque de place, certains se retrouvent au sein des classes ordinaire sans bénéficier de l'accompagnement approprié auquel ils ont droit. Une délégation a déjà été reçue à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône. Des propositions ont été faites, le dialogue se poursuit et la situation est en cours de résolution, tempère le rectorat. Martial Passy, l'ancien maire de Gibor, est poursuivi pour détournement de fonds publics. Il comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de Lyon sur les 26 000 euros épinglés par la Chambre régionale des comptes entre 2013 et 2016. Il est finalement reproché à l'ancien maire communiste de Gibor d'avoir détourné à des fins personnelles la somme de 8 726 euros dont la commune demande aujourd'hui le remboursement. Une coûteuse veste en cuir, des costumes mais aussi des jouets, des soins anticellulites, des épilations ou des frais de restaurant, estimant ses dépenses non liées à des événements communaux. La procureure de la République réclame la condamnation de celui qui a été maire de 1993 à 2017 à 6 mois de prison avec sursis, 8000 euros d'amende et 1 an d'inéligibilité avec exécution provisoire. Si des frais ont été exposés durant des vacances ou un dimanche, c'est parce que Martial Passy était maire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, explique son avocat réclamant la relaxe de l'ancien maire communiste de Gibor. Les maires peuvent faire voter une enveloppe de frais de représentation par leur conseil municipal, mais la loi n'en dresse pas la liste, demandant toutefois leur conformité à l'intérêt communal.
Lyon Demain, planète pour tous.
Après 5 mois de travaux collectifs, la Convention métropolitaine pour le climat a émis son avis pour adapter à la métropole de Lyon face au changement climatique. Pour 2100, les spécialistes prévoient des périodes de canicule qui pourraient durer 3 mois ou encore des températures de 46 degrés en été à Lyon. L'enjeu est là, il faut se projeter pour continuer d'avoir une métropole habitable, prévient le président de la métropole Bruno Bernard. C'est dans cette optique que la Convention métropolitaine pour le climat a été lancée en septembre dernier. 105 personnes habitant la métropole ont participé, 60 femmes, 44 hommes et une personne non binaire âgée de 16 à 84 ans. Bernard, 70 ans, est l'un des 6 porte-paroles. Il se souvient de débats parfois tendus entre personnes issues de milieux socio-professionnels différents, mais ne retient aujourd'hui que le bonheur d'avoir participé et quelques mesures retenues à l'issue de cette démarche unique.
Par exemple, dans les lieux de vie, on dit qu'il faut que partout on puisse avoir à proximité de chez soi un lieu de fraîcheur. Donc un lieu où on peut peut le public pas les se rendre et se retrouver pour effectivement bénéficier un certain temps. On a même proposé que dans chaque immeuble il y ait, alors parfois peut-être au sous-sol, mais un petit endroit rafraîchi. Bon, il faut accepter la climatisation hein, parce qu'on ne pourra pas non plus faire sans obligatoirement. Et où les habitants pourraient se retrouver dans le même immeuble. Ça ferait créer un lien social. Puis il y a eu d'autres choses, donc effectivement sur les activités. On est bien obligé de constater qu'on sera obligé de un peu de réduire ces activités. On ne peut pas faire du sport en plein jour. Mais essayer dans la mesure du possible qu'on ne se retrouve pas en blackout complet comme pendant le Covid. Quoi. Et c'est un peu ce qu'on voit de temps en temps quand il y a la période de canicule. Donc maintenir quand même ce lien social en maintenant des activités malgré la chaleur.
Vous avez le sentiment que cette convention va servir un petit peu d'aiguillon pour nos politiques ?
Ben, je l'espère. Vous avez remarqué que j'avais quand même assisté plusieurs fois. Je l'espère. On l'a fait dans le sens. On a une écoute assez, pense assez forte du président Bernard. Donc pourquoi pas ? Mais effectivement, on le souhaite fortement. Et puis d'ailleurs, certains parmi nous souhaitent pouvoir continuer à participer au suivi. Quoi. Voilà, donc de mise en œuvre de ce qui a été dit. Alors parfois, là-dedans, vous allez voir, on enfonce des portes ouvertes. Hein. Mais parfois, ça fait du bien d'ouvrir des portes ouvertes. Hein, parce que ça remet un peu les choses en place.
Mais au-delà des portes ouvertes, est-ce qu'il y a eu des idées innovantes ?
Des idées innovantes, je ne suis pas sûr. Au début, je pensais qu'on allait faire du brainstorming sur des technologies un peu innovantes. C'était pas ça l'objet. Il y a des techniciens, des scientifiques pour faire ça. Donc nous, ce qu'on nous a demandé, c'est effectivement de prioriser les actions. Je reviens sur ces lieux de vie à créer dans chaque immeuble. Ça, pour moi, c'est une idée innovante en disant, comme on sait qu'on ne pourra pas rafraîchir tous les logements, eh bien, au moins qu'il y ait un accès possible à la fraîcheur rapidement. Il faut aussi, on a mis le point sur la végétalisation, de renforcer la végétalisation au maximum. Ça, clairement, la métropole fait des efforts. Hein. Il y a déjà, je ne sais plus comment je vais dire une bêtise, donc je ne dirai pas le nombre d'arbres, mais le projet, c'est d'en planter 10 fois plus. Quoi, parce qu'effectivement, ça va être encore des débats, ça va être parfois au détriment du stationnement, mais... Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Vivre dans une ville agréable ou bien...
Et pour faire bouger les lignes, c'est forcément les politiques qui doivent agir ou est-ce qu'il y a aussi un petit peu l'effet colibri ?
Je crois que c'est un besoin de tout le monde. Il est nécessaire que tout le monde amène sa pierre à l'édifice, mais le politique doit, centraliser et organiser tout ça. Si chacun fait tout ça dans son coin, on a rencontré des associations, les petits frères des pauvres, et on sent bien que c'est pas encore dans leurs prérogatives, dans leurs idées, dans leur façon de voir. Ils commencent à y penser, on nous a bien fait comprendre que, par exemple, pour les SDF, il y en avait beaucoup plus qui décédaient en été qu'en hiver. C'est plus difficile de se protéger de la chaleur que du froid, quoi. Tout ça, effectivement, est à mettre en place. Chaque effort compte, comme pour le réchauffement, hein, le politique doit maîtriser tout ça.
5 sessions de travail, des rencontres avec des experts, des scientifiques ou encore des acteurs locaux pour, au final, un avis détaillé regroupant 9 grandes priorités. Maxime, autre porte-parole de la Convention.
100 personnes qui se réunissent avec 100 avis différents, des milieux socio-professionnels différents. Il y avait une vraie interrogation sur la capacité à avoir du consensus, à trouver des idées et à évoluer. Donc finalement, ça s'est très bien passé, ça a été intéressant. Il y a eu du débat, il y a eu des échanges, il y a forcément eu des tensions. Mais à la fin, le travail a été plutôt, je trouve, très intéressant et on a réussi à sortir un avis et 9 priorités. Donc très intéressant.
Est-ce qu'on peut les résumer, ces 9 priorités alors ?
Difficile de résumer les 9. Il y en a qui forcément nous touchent plus personnellement de par notre parcours, notre personnalité. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé principalement sur les activités et c'est vrai que la partie culturelle sportive me touche beaucoup. On a évoqué tout à l'heure une priorité qui est ressortie principalement, si on prend la totalité de la convention, c'est la santé. Mais c'est vrai que moi, si je devais en ressortir une, la priorité qui me touche plus à cœur, c'est la continuité des activités et de la vie culturelle pour éviter l'isolement, le repli sur soi. Donc c'est vraiment celle-ci qui va me toucher personnellement, mais là, c'est vraiment un ressenti personnel. Je dirais que si on doit ressortir une priorité plus globale de la convention, la santé est quelque chose qui a vraiment touché l'ensemble de la convention.
Alors maintenant que l'avis là, il est posé sur le papier, qu'est-ce que vous en attendez ?
Eh bien que la suite arrive, c'est-à-dire que les politiques la prennent en main, prennent les choses en main, les posent sur un système politique, donc que ça puisse déboucher sur des actions concrètes d'anticipation, parce qu'on a vraiment parlé d'anticipation, on s'est projeté à 2050, on sait que ça va très vite arriver. Donc le but, c'est que les politiques la prennent en main et que surtout, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a un certain ruissellement, si ça pouvait déboucher sur d'autres potentielles conventions dans d'autres villes, voire d'autres pays, et que ce sujet de la chaleur, qui est bien particulier, qui n'est pas que le changement climatique, mais vraiment lié à la chaleur et à cette adaptation, puisse faire des bébés un petit peu, parce que je pense qu'on est précurseur sur le sujet. Cette convention est toute, c'est une des toutes premières sur le sujet. Donc on a envie que ça diffuse assez rapidement.
Est-ce que cette réflexion est née des mesures un petit peu atypiques Est-ce que c'était le but d'ailleurs, ou on a l'impression un petit peu que c'est quand même enfoncé un peu des portes ouvertes? C'est quand même un petit peu des choses qu'on a entendues déjà de la part de nos politiques.
C'est des choses qu'on a entendues aussi parce qu'il y a certains territoires qui sont déjà dans ce cas-là. Donc forcément, ce qu'on a pu évoquer, c'est lié à des villes ou des pays qui, eux, vivent déjà des chaleurs intenses. On le voit très bien. Donc forcément, on va sur des domaines qui, des problématiques que d'autres ont déjà et que nous, à Lyon, on anticipe pour 2050. Mais évidemment, donc forcément, on a ce sentiment qu'on va quelque part, en gros, on pousse des portes, ouvertes, comme vous le disiez, parce que forcément, c'est des problématiques que d'autres ont. Donc oui, après, ça nous a permis, et je pense ça permettra aux politiques de comprendre nos priorités, là où on veut mettre le focus. Après, le but n'était pas de donner des solutions techniques, parce que ce ne sont pas nos métiers ni nos capacités, on n'a pas toutes ces compétences. C'était vraiment de mettre un focus sur les priorités liées à cette problématique de la chaleur et non pas donner des solutions. C'est pour ça que ça peut paraître être un avis qui ne donne pas de nouvelles solutions, mais ce n'était pas le but non plus. Nous n'avons peut-être pas les compétences pour donner des solutions. Par contre, nous avons notre vision sur là où les priorités doivent être axées. Et maintenant, aux professionnels, aux ingénieurs, aux politiques, d'apporter les solutions aux problématiques que l'on a pointées du doigt.
Ça va dépendre également du budget, de la condition budgétaire. Vous ne craignez pas les limites justement du dispositif?
Un vrai sujet, le budget. Alors ça a été un vrai sujet, on en a beaucoup parlé. Il est vrai que quand on parle rénovation énergétique, quand on parle adaptation des bâtiments, il y a une question de budget. Sauf qu'on a vu qu'il y avait plein de leviers possibles qui ne nécessitaient pas de budget. L'adaptation des horaires, c'est un levier qui ne nécessite pas de budget. Dans la continuité des services publics, on parlait de prioriser certains services publics indispensables par rapport à des services publics non indispensables. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui ne nécessite pas de budget. On transfère des compétences et des forces d'un service à un autre pour prioriser, par exemple, la santé en temps de forte chaleur. Donc voilà, il y a quand même des leviers disponibles qui ne nécessitent pas de budget. Ah, on est tous d'accord que malgré tout, dans certains leviers, il y a besoin de budget et là, il va falloir prioriser l'avenir, c'est certain.
Plus qu'un catalogue d'idées ou de mesures, l'avis rendu vise surtout à établir une stratégie pour les 20 ou 30 prochaines années. Laurence Beaufet, vice-présidente de la Métropole de Lyon, déléguée à la politique de concertation et à la participation citoyenne.
C'était assez intéressant quand même de les faire travailler pour la première fois sur l'adaptation et pour la première fois aussi sur des éléments assez stratégiques finalement et pas un catalogue de mesures comme on a l'habitude dans les conventions habituellement. C'était intéressant de vérifier que l'ensemble des métropolitains, enfin représentatifs, sur quoi finalement en adaptation ils mettent l'accent. Par exemple, ressort des axes très forts de coordination, des axes très forts sur le logement, des axes assez importants aussi sur les solidarités. Et là, ils nous interpellent, et c'est normal, pour un peu casser tout notre millefeuille et faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'un peu commun et global qui se dessine. Donc en mettant vraiment des axes. Et dans chacun de ces axes, ils nous mettent aussi quelques bonnes idées pour tout de suite, dont des anecdotiques comme se baigner dans le Rhône, mais comme d'autres, continuer d'avoir des activités culturelles, se déplacer, de ne pas refaire des confinements quand on est en cas de crise caniculaire. Voilà. Et de faire en sorte que nos lieux publics, en particulier pour les enfants, on pense aux écoles, soient adaptés en priorité.
Il y a 100 personnes, donc forcément des gens de gauche, de droite, toute tendance politique. Comment on arrive à trouver un avis commun?
Eh bien ça, il y a la qualité du travail qui est fait des animateurs. Et pour moi, ce que j'ai aussi demandé vraiment, c'est que la parole de toutes et tous soit bien respectée. Et donc les modalités de travail, on essaie de le faire, d'autant plus que l'opinion politique était une des données des panélistes. Donc on avait vraiment quelque chose de très représentatif et parfois tendu dans leurs échanges.
Ouais. Et le résultat, il n'est pas un petit peu style consensus mou, quoi?
Non, enfin je pense pas. En tout cas, il a bien reflété les tensions de la société qu'on vit aujourd'hui. Donc trouver même un consensus mou n'était pas facile. Et ils ont souhaité aussi dans la vie refléter ça. Donc à chaque fois, dans chacun des axes, même s'ils ont été consensuels, il y a les points de débat qui restent. et ça, ça a été une demande assez forte qui reflète du coup les tensions actuelles de la société. Hein.
Est-ce qu'il y a des choses originales qui sont sorties ou est-ce que finalement c'est une question essentiellement de priorité ?
On leur demandait pas d'avoir effectivement la bonne idée que personne n'avait jamais eue. Donc sur ces éléments stratégiques, non, il n'y a pas forcément ça. Il y en a, mais ce n'est pas forcément le travail qu'on leur demandait. Par contre, conforter les chemins vers qu'ils voient, eux, pour s'adapter, jusqu'où ils sont prêts aussi à évoluer dans les modes de vie ou les modes de travailler, ça, c'était intéressant. Et on voit que ça fait débat. Et il n'y a pas forcément toujours consensus sur ce degré-là de changement qu'il faut avoir. Certains vont très loin, et il y a quelques bonnes idées qu'on peut retrouver là-dedans, y compris même remettre en cause les horaires sur lesquels on travaille, la manière qu'on a de travailler, et d'autres sont beaucoup plus fermés au changement de ce qu'ils vivent aujourd'hui. C'est intéressant aussi de voir dans quel état nous sommes sur ces discussions-là.
Maintenant, vous leur dites quoi ? Merci, au revoir, une poignée de main, ou est-ce que ça va continuer ?
Alors, les conventions, elles ont toujours deux vies. Il y a déjà, nous, la redevabilité qu'on leur doit, c'est pour ça qu'on va les revoir en mai, pour leur dire, ben, voilà ce qu'on peut prendre en compte, nous, y compris dans la partie un peu délibérative, ce qu'on prend dans le plan climat, etc. Donc c'est la réponse des élus, en quelque sorte. Et puis il y a une autre vie qui est la leur, c'est-à-dire c'est leur avis, c'est pas celui de la métropole. Ils peuvent avoir plusieurs vies et ils peuvent aussi aller le défendre, y compris le défendre dans d'autres endroits, privés, publics, collectivités. Cette partie-là leur appartient beaucoup plus. C'est pour ça qu'ils ont des porte-parole et qu'ils sont prêts à aller défendre finalement ce qu'ils ont discuté.
Les porte-parole de cette convention métropolitaine pour le climat rencontreront dans les prochains jours l'ensemble des groupes politiques de la métropole. Surtout, leur avis va nourrir le plan climat air énergie territorial, le PCAET, véritable feuille de route de la métropole en matière de transition climatique. Un plan climat qui doit être révisé cette année. Un mot de football en Ligue 1, Montpellier-OL, un déplacement encadré pour 600 supporters lyonnais. Un arrêté préfectoral autorise en effet un déplacement organisé par l'Olympique lyonnais de 600 supporters, acheminés en bus et minibus. Ils devront rallier directement le stade de la Mosson sous escorte. Le match est programmé dimanche à 15h. Enfin, la chanteuse Larusso est en showcase ce samedi dans une discothèque bien connue, le Titan. L'emblématique boîte de nuit de Couzon au Mondeur rouvre ponctuellement pour des événements et soirées spéciales. Tu m'oublieras est le tube de Larusso sorti en 1999. La chanteuse, toujours très populaire chez les nostalgiques de la musique des années 2000, a annoncé son showcase sur les réseaux sociaux, promettant une soirée de folie et de revival. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve naturellement lundi pour une prochaine édition. Excellente journée et excellent week-end.